Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur Radio Éthique. On est ensemble pour une heure d'émission en direct et parler d'alimentation responsable. On envisagera donc les filières responsables, les circuits courts, les circuits tout court et ceux qui veulent les court-circuiter comme les potagers urbains, les restaurants et les cantines responsables, aussi bien dans les crèches que dans les maisons de retraite. Et puis les politiques mises en place par la direction de l'environnement de Monaco pour inciter tous ces acteurs de l'alimentation à s'engager. Une heure de direct donc, dans un lieu hautement symbolique, c'est le marché de la Condamine à Monaco. Rassurez-vous, nous avons respecté la distanciation sociale, selon l'expression consacrée, autour de cette table, ce qui va nous permettre, lors de la discussion, de ne pas mettre les masques. Nous sommes avec cinq invités aujourd'hui. Patrick Roland, le directeur adjoint de l'environnement à Monaco, avec qui nous aborderons entre autres le problème des déchets alimentaires. Lina Hanson de la Fondation Albert II qui nous parlera du programme Mr. Goodfish pour instaurer une filière de pêche responsable. Jessica Sbaraglia pour Terre de Monaco qui installe des potagers urbains dans toute la principauté et même ailleurs. Elle peut en installer chez vous si vous le désirez. Elisa Alberto qui pourrait faire en quelque sorte la synthèse de tout cela avec sa plateforme internet Eco Slow Wasting pour éviter le gaspillage et en particulier le gaspillage alimentaire. Et puis nous avons autour de cette table aussi Marcel Ravin, le chef étoilé du Blue Bay au Monte Carlo Bay. Marcel Ravin, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir autour de cette table, même si ce n'est pas pour déjeuner. Alors faisons simple, qu'est-ce que c'est pour vous l'alimentation responsable?
L'alimentation responsable, c'est d'abord une prise de conscience de tout un chacun, comprendre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas manger tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. La seconde chose, c'est savoir écouter et vivre au rythme de la nature. Une alimentation responsable est égale à une meilleure santé, je pense.
Alors, vous avez un point commun avec au moins deux de nos autres invités ici sur Radio Éthique, Jessica Sbaraglia de Terre de Monaco et Lina Hanson de Mr. Goodfish. C'est vous d'abord qui avez décidé d'installer un potager maison au Blue Bay ou pas?
Jessica est venue me voir il y a quelques années à ce sujet. Elle m'avait parlé de son envie de créer des potagers, bien sûr, urbains. Et je trouvais ce projet hyper intéressant. Nous sommes restés à discuter pendant très longtemps. Je me souviens de ça comme c'était hier. Ça s'est passé justement au Monte Carlo Bay. Je ne vais pas dire après comment les choses ont évolué parce que ça a été quand même un peu compliqué au départ parce que c'était un projet nouveau, etc. Et je crois que est-ce qu'on était prêt au sein de nos établissements à comprendre un peu cette démarche? Non, puisque on était plutôt on pensait surtout essentiellement que ça pouvait être encore quelque chose de nouveau, histoire de faire le buzz et tout, etc. Mais elle y a cru, moi j'y ai cru aussi, et finalement ça s'est fait. Et aujourd'hui, bon, ce potager, c'est ma source de création, de composition et en même temps de conversation.
Alors ça vient de votre enfance et du potager de votre grand-mère en Martinique?
Oui, ça vient, mais en fait, ça a été comme une espèce de providence et tout. Quand Jessica est venue me voir, c'est un rêve de gamin, de cuisinier. Je souhaitais toujours avoir mon potager à côté du restaurant. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable d'aller chercher les légumes ou de les faire amener par Jessica. Et donc, dans les cuisines, je trouve que ça apporte une espèce de luminosité, ça apporte un sourire. Et en même temps, il y a plein de choses qui... C'est une espèce de magie comme ça. Alors, bien sûr, moi j'ai grandi dans une famille où nous vivions et tout de ce que nous produisons, de ce que nous pêchons, etc. et tout. Alors, finalement, la Terre et moi, nous sommes connectés depuis bien longtemps.
Alors, comment ça se passe? Vous demandez qu'on cultive les légumes que vous désirez ou vous élaborez votre cuisine en fonction des productions de la saison?
Alors, au début, bien sûr, Jessica a planté pas mal de légumes. Ensuite, moi, je lui ai amené aussi des produits qu'elle ne connaissait pas, que nous avons fait des essais. Et à partir de là, bon, il y avait plus à se poser de questions parce que elle me faisait aussi découvrir des choses aussi que je ne connaissais pas. En fait, c'est une relation qui est saine, qui est honnête. Elle sait très bien quelles sont mes attentes. Mes attentes, elles sont pas compliquées. C'est juste avoir le bon produit, comme je l'ai dit, au bon moment, le plus vivant possible, et tout, même si on le cueille pour l'amener en cuisine. Vous savez, on a fait découvrir ici la plantation des cacahuètes, différents légumes des Caraïbes, et tout, comme le taro appelé chouchine, la fameuse christophine. Tout ça, ça climate avec la terre d'ici, et tout. Et c'est ça qui est intéressant.
Mais vous n'avez plus de besoin de faire venir des produits d'assez loin, parce que vous faites une cuisine métissée, donc on a l'impression quand même que vous allez chercher des produits qui sont très loin dans le monde. C'est plus de votre...
Non, mais en fait, moi, je fais une cuisine qui a une histoire et tout, et la Méditerranée fait partie aussi de mon histoire. Finalement, la terre, elle est aussi très propice à la culture des produits qu'on peut retrouver dans toute la Caraïbe. Et tout, on a un climat qui est fantastique ici. Et cette cuisine, avant tout, c'est une cuisine, elle est universelle. C'est une cuisine responsable, en fait. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que on pourrait penser qu'elle est métissée, mais je n'aime pas tellement ce terme, pour être honnête avec vous. Je pense que quand même, je fais une cuisine de produits, de passion, mais une cuisine d'abord respectueuse de l'environnement, puisque aujourd'hui, même la pêche, même nos poissons, on travaille différemment.
Vous êtes proche de l'autosuffisance avec le potager ou vous avez encore d'autres fournisseurs? Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez des obligations que vous imposez à ces fournisseurs?
Oui, pour le Blue Bay, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons un restaurant qui est ouvert uniquement le soir. Alors, ce qui permet d'avoir suffisamment d'eau pour nos clients et à 40 couverts. Ensuite, nous avons un autre potager que Jessica connaît aussi, qui est le potager à Menton, qui est le jardin des Antipodes. Mmh. Et non, ce fait que les deux potagers et tout arrivent à nous suffire. Alors, finalement, oui, c'est 98, pour ne pas exagérer, 98,5% de tous les légumes viennent et tout des potagers, et le menu vit au rythme du potager, en fonction de ce que la terre elle donne. Et nous avons cette chance aussi de pouvoir changer nos menus, et nos clients ils le comprennent très bien parce qu'ils ont envie de découvrir. Les semaines elles se suivent mais elles ne se ressemblent pas finalement. Et non.
Vous parliez du poisson tout à l'heure, vous avez souscrit à la charte Mr. Goodfish, on y reviendra avec Lynn Hanson, pour promouvoir des filières d'approvisionnement éthique. Ça vous oblige à quoi cette charte? À ne proposer que des poissons dont les populations sont... À ne pas proposer plutôt des poissons dont la population est menacée ou...
Bon, bien sûr, d'abord, la chose essentielle, c'est que moi je travaille, comme je travaille avec mes maraîchers, tels que Jessica et Alexandra, c'est la même chose avec mes marieurs. Je veux avoir le meilleur poisson au meilleur moment. Sur ma carte, il n'y a que du poisson de la pêche durable, aussi local. Je ne vais pas chercher jusqu'en Bretagne mes poissons, je n'ai pas envie de ça. Et ce qui est amusant dans tout ça, c'est que nous ne mettons plus de nom de poisson sur la carte. Comme ça...
Étonnant,
parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle à quelqu'un d'une girelle, quand on parle à quelqu'un de poisson dont le nom ils ne connaissent pas, ils n'ont pas envie de le consommer. Mm-hmm. Par contre, quand vous mettez simplement poisson issu de la pêche durable et tout, etc., ou la pêche locale, déjà on commence par vous raconter une histoire et en même temps vous essayez. Franchement, je ne pensais pas que je pouvais avoir... On fait de la vive, par exemple, et tout. Et les gens, ils nous disent, bon, on ne pensait pas que ça avait ce goût-là, que ça pouvait être aussi un poisson aussi fin. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que je crois qu'on s'est souvent arrêté à consommer du loup, de la dorade, parce qu'on croit qu'il n'y a que ça en Méditerranée, alors que c'est totalement faux. Là, il n'y a pas longtemps, on m'a ramené des castagnoles incroyables avec une chair d'une finesse et tout, où c'est aussi fin qu'un cabillaud quand il est mariné avec nos petits secrets et tout, etc. Ça peut rivaliser à un super black cod que pendant un moment tout le monde trouvait que le black cod c'était le poisson d'exception dans les restaurants asiatiques.
Il y a des poissons dont vous vous interdisez de faire la cuisine ?
Oui, par exemple, moi j'essaye de guider toujours nos clients vers des choix, mais je ne serai jamais dans un... Je ne suis pas quelqu'un de fermé, je suis là pour pouvoir donner du plaisir et satisfaire les gens. Quand je vous dis, par exemple, je ne peux pas vous donner une tarte aux fraises aujourd'hui, parce que c'est fini les fraises, si vous insistez lourdement, vous ne l'aurez pas aujourd'hui. Je vous le ferai, mais ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera peut-être après-demain, parce que j'irai chercher des fraises spécialement pour vous. Mais ça n'aura jamais le même goût. Alors, c'est un peu la même chose pour les poissons. Oui, bien sûr, je m'interdis le turbo. Ce n'est pas parce que c'est les fêtes de fin d'année qu'on va retrouver du turbo à la carte. Je m'interdis des poissons qui viennent d'outre-Manche. Ça, c'est... Nous avons la chance d'être dans une région incroyable. Je pense que quand on parlait d'alimentation responsable et tout ça, il faut commencer déjà par s'approprier et connaître son terroir, son environnement, et faire vivre son environnement. Il y a tellement de choses à découvrir, mais il faut juste prendre un peu le temps de tout ça et s'amuser à cuisiner.
L'alimentation responsable, c'est aussi moins de viande ou pas ?
ça c'est aussi un autre débat, c'est tout la même chose. Et donc, je pense que nous ne sommes pas obligés de consommer à outrance de la viande comme du poisson et les légumes. Ce n'est pas parce que lundi il n'y a pas de viande ça va nous rendre plus malheureux qu'autre chose. Alors, moi sur ma carte c'est un peu la même chose. Et donc, il n'existe qu'une viande, mais nous sommes dans un périmètre de... nous sommes dans le coin. Et tout. Je ne vais pas chercher, par exemple, les volailles de lin, je ne vais pas chercher les volailles de Bresse. Et tout. Oui, si vous voulez manger un poulet de Bresse, il n'y a pas de problème, vous me le dites, je vais vous le faire venir. Mais moi, je travaille essentiellement, et tout, en ce moment, par exemple, sur la carte, on avait le veau du Piémont, on avait des volailles noires du Piémont. Je travaille avec les viandes du Piémont, parce que nous sommes pas loin où les agneaux de l'Adret. Et donc, mais on ne va pas au-delà de tout ça. Bien sûr que j'aurais aimé avoir bien plus de produits animaux ici, etc. Mais le bœuf, par exemple, je n'en ai pas. Et donc, mais je peux vous le faire si vous le souhaitez. Et donc, mais je n'en ai pas.
Vous avez une politique pour les déchets, que ce soit de cuisine ou les emballages ?
Oui, bien sûr, parce que au B, ça fait très longtemps que nous avons mis en place pour tous les services un recyclage. Et nous faisons partie d'une charte aussi, mais ça va jusque sur l'énergie et tout, puisque c'est des panneaux solaires en ce moment. Nous avons des panneaux solaires sur la toiture du Monte Carlo B. Alors finalement, cet hôtel a toujours été un peu dans ce sens et tant mieux. Et puis bon, ici à Monaco, je crois que nous sommes tous concernés par l'environnement, par la protection, nous avons des responsabilités et non.
Merci Marcel Ravin. Je sais qu'il va vous falloir retourner au baie pour les derniers réglages du dîner. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je travaille parce que vous savez, c'est bientôt les 15 ans du Monte Carlo Bay. Ah, oui. C'est dimanche.
Ah d'accord.
Alors, je suis en train de travailler sur l'anniversaire du Monte Carlo Bay et tout avec mes équipes. On est en train de réfléchir à un gâteau d'anniversaire.
D'accord. Voilà. À bientôt. C'est très aimable à vous d'avoir pris un petit peu de temps pour venir nous parler en direct sur Radio Éthique. Au revoir.
Écoutez Radio Éthique, Radio ETHIC et réagissez. Et réagissez.
Jessica Sbaravia, bonjour.
Bonjour.
Terre de Monaco, potager urbain. C'est quelqu'un de très exigeant, Marcel Ravin, vous le ressentez sur ces demandes ?
Oui, bien sûr. Et heureusement, c'est pour ça qu'on s'entend bien, comme on est les deux exigeants, on arrive à trouver des points communs et donc du coup travailler formidablement bien ensemble.
Je rappelle que c'est vous et Terre de Monaco qui avez installé le potager du Blue Bay. On va revenir sur votre entreprise. Qu'est-ce que c'est Terre de Monaco en quelques mots ?
Alors, Terre de Monaco, c'est une société qui a pour but de produire de l'agriculture urbaine, en particulier des potagers qui sont écologiques, qui sont faits dans les valeurs du bio et de la permaculture. On en trouve en plein sol, on en trouve sur les toits de la principauté de Monaco, mais aussi on a un écosystème qui s'exporte dans d'autres villes.
Où est-ce que vous en avez déjà installé à Monaco ?
À Monaco, on a 5 potagers, ça fait 1600 m² de culture. On a, le premier potager a été mis à la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ensuite, on a le potager du Monte Carlo Bay avec 400 m². On est sur un toit, on ne le voit pas directement, mais on a une salle de conférence du casino dessous. On a un potager aussi à l'hôpital, qui est un potager un peu thérapeutique, puisqu'on travaille avec les personnes de l'hôpital au service psychiatrique. Et un potager aussi à la Tour Odéon, qui est plutôt une petite ferme, puisque là, on a un écosystème complet avec le maraîchage, des poules, des ruches. Et encore un autre qui se trouve au Ruccino, un immeuble proche du port.
Mais les gens ne savent pas ça. On peut les voir en passant par exemple à côté de la Tour Odéon ou pas ?
Alors le potager de la Tour Odéon est situé dans les jardins de la copropriété, donc c'est un peu dur de le voir. Mais par contre, vous pouvez aller au Monte Carlo Bay et passer devant en allant prendre un café à l'orangerie. Et donc, ça, c'est visible. Vous avez aussi le potager de la Fondation qui est visible. Les autres sont sur les toits, donc c'est un peu plus dur.
Et vous vous êtes exporté, si je puis dire, à l'étranger, puisque vous avez, par exemple, installé un potager en Belgique. Vous pouvez nous en parler de ce potager belge ?
Alors, ce sont tous des projets qui sont en cours, donc validés déjà, mais en cours de construction, parce que c'est des nouveaux quartiers qui vont sortir de terre. On a... En 2023, Terre de Nice, avec un tout nouveau quartier, 7 nouveaux immeubles qui vont sortir de terre et l'agriculture urbaine sur tous les toits. On a, comme vous disiez, en Belgique, effectivement, dans 4 ans, Terre de Tubize, sur un énorme outlet, plus de 8000 m² de production d'agriculture urbaine. D'autres projets encore en cours, et on retrouve justement tout cet écosystème, le maraîchage, la production, la diversité dans ce maraîchage, beaucoup de recherche dans le produit qui est peut-être perdu ou qu'on ne connaît plus, et un grand volet aussi pédagogique, puisque ça me tenait très à cœur de faire partager cette passion, faire partager cette culture locale et justement auprès des enfants et des adultes, bien sûr.
C'est vous qui avez contacté les Belges ou c'est l'inverse qui s'est passé ? Ce sont eux qui, connaissant votre réputation, sont venus vous voir ?
Alors, c'est via la réputation qu'on est venu me voir. Et j'ai été très honorée, puisque ça fait un petit bout de chemin quand même jusqu'en Belgique. Et j'étais ravie. Donc maintenant, je m'apprête bientôt à cultiver beaucoup de patates et faire du houblon pour faire quelques bières et satisfaire nos amis belges.
C'est toujours le même concept ou votre installation dépend du désir de votre client ?
Alors, j'ai la chance de pouvoir un peu imposer mon écosystème parce que ça garantit la viabilité du projet et la viabilité économique du projet. Donc, on ne s'installe pas minimum 2000 m² en dessous, on ne peut pas proposer notre écosystème. Et donc, j'ai la chance de pouvoir retrouver des promoteurs, des architectes qui essayent de m'intégrer le plus favorablement dans leur construction.
Alors concrètement, qui prend soin des potagers ? C'est vous ou votre client ? Vous leur donnez clé en main et ils se débrouillent ou vous venez les aider ?
Alors quand on est à l'extérieur comme ça, non, on propose un projet vraiment clé en main, donc la conception, l'aménagement et ensuite l'exploitation de ces terrains, donc l'entretien toute l'année, la prise en charge de la vente des produits auprès des habitants du quartier, et puis les ateliers, les écosystèmes de pédagogie, des cours avec les enfants, les adultes, toutes les personnes qui sont intéressées à se reconnecter aux liens de la terre. Donc on arrive vraiment à proposer un ensemble.
On va revenir sur vos deux clients principaux dont vous avez parlé tout à l'heure, la Tour Odéon et l'hôpital. La Tour Odéon, c'est donc cette grande tour qui est nouvelle à l'est de la principauté. Vous avez installé le potager dans les jardins de la copropriété. Ça a été difficile d'obtenir l'autorisation de la copro ?
Non, j'ai eu un accueil vraiment favorable de la famille Marzocco qui ont vu une opportunité. Chaque fois qu'on s'installe, on prend en charge l'emplacement, donc on a un peu moins de charges d'entretien au niveau des charges de copropriété, donc ça, c'était un avantage. Et puis aussi, c'est devenu un peu un plus dans la vente des appartements, puisque vraiment on peut vous proposer des œufs toutes les semaines, quelques légumes aussi, donc même du miel. Donc c'est vraiment devenu un avantage pour l'immeuble, en fait, de nous avoir à côté. Et une sorte de... C'est un vrai luxe de pouvoir voir pousser ces légumes juste à côté.
Alors, on achète les légumes ou ils sont donnés à la copropriété ?
Non, c'est vraiment comme le maraîcher pourrait le faire. Donc, la vente de notre production, c'est le seul revenu que nous avons.
Vous ne faites pas vraiment comme une AMAP, alors ? Vous n'avez pas de panier
Non, c'est vraiment en fonction de notre production. J'ai une liste de clients que j'informe toutes les semaines. Voilà, on va avoir des tomates, des courgettes, des œufs. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Et ensuite, le mercredi matin, on livre tout ça dans les boîtes aux lettres.
Toutes les semaines ?
Oui.
L'hôpital, vous avez toujours ce rôle de faire pousser des légumes pour la cantine, mais vous avez un autre rôle bien particulier avec l'aide psychiatrique.
Oui, ça c'est un projet vraiment qui me tenait aussi très à cœur grâce à l'association Act for Passion et évidemment le CHPG. On a mis en place des cours pédagogiques en relation avec le service psychiatrique où on accueille des adolescents, des adultes aussi parfois en difficulté, et donc on les fait jardiner avec nous, on a des ateliers avec eux.
C'est un rôle thérapeutique alors ?
Oui, vraiment, mais je pense que l'agriculture, le maraîchage, la culture de la terre, c'est thérapeutique parce que c'est relaxant, c'est valorisant de pouvoir ne serait-ce que de manger une petite feuille de basilic que nous avons plantée. C'est apaisant, ça vous rappelle qu'il y a un cycle de vie. Et l'observation aussi, chose qu'on a souvent oubliée avec le temps parce qu'on vit dans une économie rapide où on a beaucoup aussi de choses qui ne sont peu concrètes. Et donc ça nous parle vraiment, ça parle à notre cerveau reptilien, c'est quelque chose qui nous connecte.
Et quel écho chez les gens de l'hôpital ?
Alors vraiment, ça fait 3 ans maintenant qu'on met en place ces cours et on a de très bons retours. J'ai même... Une des patientes qui maintenant vient beaucoup plus régulièrement, et j'espère un jour peut-être qu'elle aura envie d'en faire son métier, donc c'est une vraie réussite.
Donc vous travaillez aussi pour les grands chefs, on a vu avec Marcel Ravin, mais vous travaillez aussi pour Mauro Colagreco à Menton, au Mirazur. Quelle est la différence entre les deux potagers que vous avez pu installer ?
Alors, les potagers des chefs, c'est vraiment l'extension de leur cuisine dans la terre. Donc vous avez vraiment, les potagers sont complètement différents. Et la recherche aussi du produit est différente parce qu'il va être travaillé différemment. Donc c'est toujours très très intéressant. Et le potager de Mauro ne ressemble absolument pas au potager de Marcel Ravin. Donc c'est une collaboration aussi différente parce qu'il y a une... recherche peut-être plus des aromates chez un, peut-être l'autre plus du produit fini. Donc c'est très intéressant.
Merci Jessica de Baraguin.
Merci à vous.
Écoutez Radio Éthique, Radio ETHIC et Réagissez. Et réagissez.
On l'a dit tout à l'heure, en amont de la cuisine responsable d'un grand chef, il y a les filières d'approvisionnement en poissons, par exemple. Avec nous, Lina Hanson, pour le programme Mister Goodfish de la Fondation Albert II. Le but du programme, c'est de promouvoir la consommation durable du poisson sauvage. C'est bien ça, Madame Hanson ?
C'est bien ça, oui. Le programme Mister Goodfish est un programme européen qui a pour but donc de sensibiliser le public, mais aussi les professionnels, donc les métiers de la mer, pour promouvoir justement une consommation durable et responsable des produits de la mer.
Alors ça, c'est la finalité, mais comment vous opérez ?
Alors, tout d'abord, c'est un programme qui est lancé il y a 10 ans, donc on a 10 ans maintenant de recul, par l'Aquarium Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Et nous, à la Fondation, on s'occupe de l'organisation de la façade méditerranée. Donc, comment ça marche ? On va produire 4 fois par an, à chaque saison, une liste des espèces de poissons recommandées pour la consommation suivant certains critères. Donc il y a 3 critères. Le premier, c'est le plus important, c'est l'état de la ressource, tout simplement, donc l'état des stocks. Est-ce que les stocks sont en bon état ? Mmh. On va regarder donc les données scientifiques, par exemple, par mise en disposition par Ifremer, par exemple. Et voilà, ça, c'est la base, c'est vraiment les données scientifiques. Le critère numéro 2, c'est la taille, puisqu'on va recommander une taille qui correspond à la maturité sexuelle pour permettre vraiment, donner en tout cas toutes les chances aux poissons de pouvoir se reproduire avant d'être, au moins une fois, avant d'être pêchés, capturés. Et le troisième critère, c'est la saison. Comme j'ai évoqué, on sort donc une liste d'espèces en hiver, toutes les saisons en fait, hiver, printemps, automne, été. Et c'est très important parce qu'on a moins le réflexe pour le poisson, mais c'est un peu comme les fruits et légumes. Il y a une saisonnalité et donc on va pas manger n'importe quel poisson n'importe quel moment de l'année, comme évoqué aussi par le chef Marcel Ravin tout à l'heure.
Et vous faites ce recensement dans une aire géographique déterminée ou plusieurs aires, en Méditerranée seulement, ailleurs ?
Non, du coup, il y a aussi un aspect très important qui est la pêche. On va promouvoir une pêche locale. Mmh. Donc il y aura, il y a 3 listes différentes qui sortent pour chaque façade maritime de la France. Donc il y a Mer du Nord, Atlantique et puis Méditerranée. Voilà.
Est-ce que vous mettez à contribution les pêcheurs ?
Oui, justement. Donc ces listes, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc évidemment, ils sont disponibles pour le consommateur, mais la force, je dirais, de ce programme, c'est vraiment d'impliquer toutes les étapes, tous les maillons de la pêche, de la filière de la pêche. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des adhérents, on peut adhérer au programme East Goldfish, du pêcheur, poissonnier, chef de restaurant, justement.
Oui, mais ça, c'est en aval. Mais est-ce que les pêcheurs eux-mêmes recueillent les informations qui vont être synthétisées après ?
C'est-à-dire que oui, pour établir les listes, voilà, il y a un comité d'experts. D'accord. Dans ces comités d'experts, il y a des scientifiques, mais aussi justement des pêcheurs, des représentants, par exemple, des comités de pêche régionales, des poissonniers, des grossistes, etc., qui ont une vue, qui vont complémenter, on va dire, les informations scientifiques, puisqu'ils vont voir s'il y a, à un moment donné, plus d'un certain espèce, par exemple, présent en mer ou sur les étals.
Alors, une fois que les informations sont recueillies, vous faites une synthèse, et qui est-ce qui décide après que, par exemple, cette espèce de poisson est en danger, que l'autre se porte bien, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites après cette information-là?
Oui, alors nous, on va regarder les informations qui sont déjà... Ce n'est pas nous qui allons dire, on va dire, suivre l'état naturel ou de décider si une espèce est en bon état ou pas. On va se reposer sur les informations scientifiques. Après, pour des poissons qui n'ont pas forcément... qui ne sont pas soumis à une pression ciblée de pêche ou qui sont un peu... moins suivis scientifiquement, on peut les intégrer aussi dans les listes, tout en on les appelle les espèces à découvrir, parce qu'une autre, but de ce programme, c'est vraiment de promouvoir des espèces qu'on a un petit peu oubliées, au passage, quand le chef Ravin avait mentionné que quand on va dans un restaurant, on va plutôt tout le temps trouver un peu les mêmes espèces. Quand on fait les courses, on va aussi avoir tendance à choisir tout le temps les mêmes espèces. Donc, une autre volet du programme Mr. Goldfish, c'est vraiment d'essayer de valoriser, de faire valoriser, de redécouvrir les poissons méconnus.
Alors, les poissons méconnus, par exemple ?
Alors, sur la liste là, sur la liste d'automne, donc, qui vient de sortir, par exemple, il y a le tassergal. Je ne sais pas.
Le tassergal.
Tassergal.
Je n'ai jamais entendu parler de ce poisson.
Oui, alors on peut dire que c'est un cousin du loup, du bar. Il ressemble un petit peu. Il peut être. Il a par contre une impressionnante rangée des dents qui sont très pointues, un peu très bien coupées. Mais il est très, très abondant en ce moment en Méditerranée. Et donc il y a vraiment beaucoup et on peut vraiment en profiter parce qu'il est délicieux.
Mais vis-à-vis de qui faites-vous la promotion, par exemple, du tassergal, ou dites-vous non, ce genre de poisson, il ne faut pas le prendre parce que...
Alors, on n'est pas... Avec Mr. Goodfish, on est dans une communication entièrement positive et constructive. Donc, on va plutôt que d'interdire certaines espèces, on va plutôt se recommander
c'est
des espèces.
C'est plutôt la promotion.
Voilà, c'est la promotion des espèces. Voilà. Et ces listes, ils sont disponibles sur le site web. Il y a aussi une application qui est très pratique quand on fait les courses, donc pour le consommateur lambda, on va dire. Mais c'est vraiment un travail. La force du programme, encore une fois, c'est l'implication des adhérents. Donc ça va, par exemple, à Monaco, on a 14 restaurants adhérents. Ça veut dire que sur les menus, comme le chef Ravin avait mentionné tout à l'heure, ils vont promouvoir des espèces Mr. Goodfish, il y aura un logo, il y aura une communication, un suivi, hein, c'est-à-dire un accompagnement, c'est-à-dire si les clients ont des questions sur le programme, ils vont pouvoir répondre. Et pareil pour les grossistes, les grandes surfaces, on a certaines grandes surfaces qui ont adhéré aussi au programme, donc ça va être toute une communication. Auchan, Intermarché, il y a aussi Metro en grossiste.
Carrefour, non ?
Non, Carrefour, pas pour l'instant, non.
D'accord. Et donc ça s'adresse aussi aux particuliers. Moi, je peux aller voir vos listes et puis me dire si je vais chez Monsieur Rinaldi pour aller acheter du poisson. Tiens, ça, faut que je le prenne, faut pas que je le prenne.
Exactement. Quand c'est disponible, donc c'est vraiment un accompagnement. Ça va guider, ça va aider le consommateur à découvrir une alternative aux poissons qu'on connaît déjà très bien, mais qui sont pas forcément consommer au bon moment.
La dernière réunion en date des quatre réunions qui ont lieu chaque année, c'était quand ?
C'était fin juillet.
Fin juillet, vous avez découvert des espèces menacées ?
Non, c'est-à-dire qu'encore une fois, s'il y a des espèces menacées, on ne va pas forcément communiquer dessus, on
D'accord.
va communiquer sur...
Ça, j'ai bien compris,
oui,
vous êtes du côté positif, mais est-ce qu'il y a
ça,
quand même des espèces qui sont aujourd'hui menacées ?
Oui, il y a des espèces menacées, oui.
Lesquelles,
c'est
exemple
vrai. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas très recommandé en Méditerranée de consommer de l'espadon, par exemple. Et il y a aussi les stocks d'anchois n'est pas non plus... Enfin, ils sont un peu... En retrait, on va dire, et aussi le merlu. Mais bon, encore une fois, on est plus dans la
D'accord.
communication positive.
Alors, allons dans la communication positive. Est-ce qu'il y a des espèces qui se portent à merveille ?
Oui, par exemple, donc, le fameux tassergal qu'on en a déjà parlé. Et après, on a décidé de mettre chaque saison, on met en avant un poisson en particulier aussi pour pouvoir communiquer, pardon, un peu plus dessus. Cette saison, pour la Méditerranée, on parle du maquereau, qui est connu pourtant, mais qui n'est pas très, toujours très, très consommé, en fait. Et surtout, le maquereau de Méditerranée.
C'est une erreur, c'est très bon le maquereau.
C'est très bon,
c'est
délicieux.
Excellents.
Pardon ?
Avec des oméga excellents.
Oui, exactement, c'est bon pour la santé.
Comment est-ce que vous savez que vos observations sont suivies ?
Alors, on a un suivi, c'est-à-dire que nous avons, vous voulez dire chez les adhérents,
oui.
Si, oui, voilà. On a mis en place donc en 2018 un système d'audit, on va dire, avec Bureau Veritas qui vont auditer tous les adhérents. 50% ont déjà été audités. C'est plus un accompagnement, on va dire, pour vraiment être sûr que la démarche est bien comprise, que ils sont capables de communiquer sur les valeurs et sur le concept de Mr. Goodfish aux clients. Mm-hmm. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Et puis les logos, les attributions.
Donc, puisque vous restez dans la communication positive, il n'y a pas de sanctions ?
Il n'y a pas de sanctions, non.
C'est purement informatif pour les gens qui adhèrent à votre charte ou ils s'engagent vraiment à quelque chose ?
Non, il y a un vrai suivi aussi. Ils s'engagent vraiment et puis il y a un vrai échange tout le temps. Pardon ?
Moralement, c'est ça, ils s'engagent moralement.
Oui, c'est ça, moralement. Oui, ouais. Oui, oui, ils s'engagent à mettre, par exemple, pour les restaurants, deux espèces de poissons Mr. Goodfish sur leur menu, par exemple, ou pour les grossistes, enfin, pour les poissonniers, cinq espèces sur leurs étals. Voilà.
Merci, Léa Hanson, de la Fondation Albert II. On va se retrouver tout de suite sur Radio Éthique.
Écoutez Radio Éthique, Radio ETHIC et réagissez. et réagissez.
Patrick Roland, bonjour. Ah, je ne vous entends pas. Est-ce que... Oui, c'est bon ?
C'est bon ?
C'est bon, voilà.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'environnement à Monaco et vous vous occupez du programme des restaurants engagés. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ce programme ?
Alors, le premier rôle de l'administration, il n'est pas très drôle, il est d'établir des règles. Bon, une fois que c'est fait, nous, à la direction de l'environnement, on a pensé qu'on ne devait pas s'arrêter là, mais qu'il fallait aussi accompagner ces règles. Notamment dans l'objectif principal qui est d'un zéro déchet plastique à usage unique à l'horizon 2030, on a décidé de faire appel à une association, Éco-Sciences Provence, qui accompagne sur son territoire à Brignoles les commerçants ainsi que les restaurateurs à améliorer leurs pratiques. Donc on a importé ces labels en principauté. Ça a commencé en 2016 pour accompagner les commerçants dans l'abandon du sac plastique à usage unique. Et en 2019, on a initié le programme sur les restaurants.
Alors l'abandon des sacs plastiques à usage unique, ça y est, c'est rentré dans les mœurs maintenant, ça n'existe plus ou pas ?
C'est rentré dans les mœurs, oui. Il y a eu une petite période d'adaptation, mais là aussi, on n'a pas été... D'un point de vue réglementaire, on n'a pas trop forcé quand même, mais plus ou moins maintenant c'est effectivement rentré dans les mœurs.
Est-ce que les restaurateurs sont conscients de ça ou ça ne les intéresse pas finalement ?
Oui, alors dans le cadre de... Alors, pour l'établissement du label Restaurant Engagé notamment, ce que l'on a fait en premier lieu, c'est un état des lieux qui établit comment était perçu l'environnement, la réglementation par les restaurateurs. Et les restaurateurs étaient déjà très très au fait des règles, de l'abandon du plastique. Certains étaient déjà très en avance, même par rapport à des bonnes pratiques environnementales. Cet état des lieux, il a permis d'établir un cahier des charges qui correspond spécifiquement au territoire, pour pouvoir que chacun puisse s'améliorer et prendre des engagements qui soient réalisables.
Alors, qu'est-ce qu'on trie dans les restaurants ?
Alors, en premier lieu, ce qu'il faut trier, c'est ces déchets plastiques. Parce que les filières existent, elles sont déjà bien en place en principauté. En ce sens, nos collègues de la SMA s'associent avec nous dans le label.
SMA, Société Monégasque d'Assainissement.
Tout à fait. Qui ont quatre ambassadrices du tri et qui accompagnent souvent nos équipes du commerce engagé pour venir faire des rappels ou expliquer aux commerçants, aux restaurateurs, comment on trie les déchets par rapport aux filières déjà existantes, à savoir principalement les emballages ménagers dans la poubelle jaune.
Alors, à supposer que ces déchets soient triés, où est-ce qu'ils se retrouvent ?
Alors, les déchets triés vont se retrouver dans la filière appropriée. Notre filière qui est existante ici est de mémoire, je pense, une usine qui va orienter le déchet vers sa filière de traitement la plus adéquate qui se trouve du côté de Mandelieu ou de Cannes.
D'accord. Il y a assez de conteneurs en principauté pour récupérer tous ces déchets ?
Oui, je pense qu'il y a assez de conteneurs. Voilà. Le travail principal, c'est d'améliorer la qualité du tri et d'inciter les gens aussi de plus en plus à trier leurs déchets.
Alors, il y a une filière qui manque encore, c'est celle du recyclage des plats consommés, ce qui reste dans l'assiette, quoi, finalement, en dernier. Est-ce que vous réfléchissez à ça ?
Oui. Alors, dans la première enquête qui avait été faite auprès des restaurateurs, en cuisine, des habitudes sont déjà prises souvent. Là où c'est plus difficile, ce sont les déchets de salle. Mm-hmm. Ensuite, il n'y a pas encore de filière locale pour pouvoir composter. Les idées, c'est l'idée de fédérer comme ça au travers de labels qui vont faire se rencontrer des gens aussi, c'est de pouvoir créer ces filières, pouvoir évaluer quels sont les tonnages potentiels que l'on pourrait avoir. Mais ce qu'on compte beaucoup, c'est sur un nouveau programme que l'on souhaite mettre en place qui concerne la restauration collective, parce qu'on sait que là, les volumes sont déjà beaucoup plus importants et eux peuvent générer l'apparition de filières ou créer la filière, une filière locale, notamment pour du compostage.
Alors, les restaurants dont vous parlez, ce sont des restaurants d'entreprise, ce sont des cantines, ce sont des restaurants d'EHPAD, par exemple ?
Sur le label Mon Resto Responsable qui correspond à la restauration collective, on parle bien de restaurants d'entreprise, de cantines. Mmh. On a déjà un petit peu approché la cantine de l'hôpital. Tout ce qui concerne donc les gros volumes. Oui.
Alors, les restaurants qui s'engagent sur ce programme de recyclage, ils signent quelque chose ou c'est purement informel ?
Non. Et alors, il y a un cahier des charges avec des clauses obligatoires. Et ensuite, on est là aussi dans une approche très positive où le restaurateur, le commerçant, va s'engager sur ce qu'il pense être faisable. Mmh. Alors, j'ai porté, par exemple, une fiche, voilà, tout à fait. Je pense que là, s'il s'agissait en fait d'un débit de boisson et de restauration rapide, qui a décidé, sur la période de son engagement, de dire, je réduis mes déchets, je lutte contre le gaspillage alimentaire, je privilégie le réutilisable, je réduis ma consommation de ressources, je participe à la dynamique locale, je suis un relais actif des actions du label, je forme mon personnel aux consignes de tri. Et j'accroche la fiche sur l'interdiction des sacs en plastique.
Vous avez les moyens de vérifier si ces restaurants qui ont signé cette charte tiennent bien leurs engagements ou pas ?
Oui, tout à fait. Le label est très actif puisque les équipes elles passent une ou deux fois par an voir le label qui était réévalué tous les deux ans. Mais en général, les commerçants, lorsqu'ils s'engagent, ils sont déjà très très sensibilisés.
Très motivés,
il y a très rarement
d'erreurs, voilà. Oui, d'écart. Vous leur prodiguez des encouragements financiers ou autres pour qu'ils tiennent leurs engagements ou qu'ils s'amènent à s'engager ?
Non, alors il n'y a pas d'accompagnement financier. C'est plutôt une aide qui est personnalisée. Alors on a produit des fiches, on vient les aider, mais les équipes restent à disposition. Pour venir les aider lorsqu'ils ont un problème ou pour trouver une solution, une filière. Je pense notamment, lors de l'abandon de certains ustensiles plastiques, beaucoup de questions sont posées sur que mettre en remplacement. par rapport notamment à tout ce qui était disponible sur le marché qui n'était pas forcément responsable.
Alors ça, c'est un problème parce que si on va en surface, en grande surface pour professionnels, parfois on ne trouve pas de couverts en bois.
Oui, tout à fait.
Comment faire?
C'est une des difficultés. C'est une des difficultés qu'on a.
Maintenant, ça vient. Hein.
Voilà. Nous, on voudra aller très vite parce qu'on est conscient qu'il y a une urgence à la fois sur le climat, sur la biodiversité. Après, on ne peut pas aller trop vite parce que, effectivement, les produits de substitution ou les filières ne sont pas forcément disponibles. Donc, il y a un jeu là-dedans de la solution intermédiaire qui serait être la plus responsable à un moment donné.
Est-ce que les restaurateurs s'engagent aussi pour les circuits courts?
Oui, alors les restaurateurs en fait s'engagent sur ce qu'ils peuvent s'engager. Certains sont sur des circuits courts. Il y a notamment des restaurateurs ici sur la place du marché qui viennent s'approvisionner directement sur des vendeurs à l'étalage qui sont à côté. On a un restaurant aussi sur le Rocher qui a son propre potager. Il y a Perle de Monaco également qui produisent en principauté. Donc la filière locale, c'est quand même une des questions centrales aussi du label.
Merci Patrick Roland de la direction de l'environnement.
Merci.
Elisa Alberto, bonjour.
Bonjour.
Vous pourriez être un peu le lien entre tous nos invités aujourd'hui avec un programme web que vous avez mis sur pied. Ça s'appelle Eco Slow Wasting. Comment ça fonctionne?
Voilà, alors Eco Slow Wasting, c'est la première plateforme e-commerce spécifique à l'anti-gaspillage, multisecteur, pour l'instant localisée sur la région PACA. Voilà, alors tout le principe simple repose sur la mise en relation entre des commerçants qui souhaitent s'engager dans une démarche, dans cette démarche éco-responsable liée au zéro gaspillage, avec les consommateurs qui sont conscients des enjeux de la planète et qui souhaitent faire des économies sur leurs courses sans perdre sur la qualité. Donc, en plus, je prends occasion pour remercier la direction de l'environnement parce que justement, je fais partie. J'ai le soutien de la direction de l'environnement parce que je fais partie du projet des commerçants et restaurateurs engagés. Donc c'est l'association Écosciences Provence qui m'aide quelque part à présenter ma solution au sein des commerçants et restaurateurs ici en Principauté.
On se joint sans abonnement à votre plateforme ?
Exactement. Donc il n'y a pas de frais, pas d'engagement, pas de contrat, pas d'abonnement. C'est vraiment une démarche volontaire du commerçant et du restaurateur ou tout autre professionnel qui souhaite vraiment s'engager dans cette initiative éco-citoyenne.
Mais alors j'allais dire, comment vous gagnez votre vie?
Après, il y a bien entendu une rémunération pour la plateforme qui se fait à travers une commission. Donc si le professionnel réussit à vendre son produit, sa box surprise, sa box détaillée, son produit à travers la plateforme, grâce à la plateforme, eh bien il y a effectivement une rémunération essentielle pour faire vivre tout ce principe-là.
Alors quel secteur économique aborde-t-elle cette plateforme ?
Eh bien, c'est tous les secteurs d'activité, principalement l'alimentaire, puisque c'est là où il y a le plus du gaspillage, que les gens y sont plus sensibles. Mais après, pour moi, de gâchis, il y avait dans tous les secteurs. Donc, il suffit de penser au gaspillage vert, donc les fleurs, les plantes, etc., le gaspillage vestimentaire, et pas que. L'high-tech, les jouets, ça prend énormément de place. La mode, en fait, change tout le temps, même dans le bricolage ou dans la décoration des maisons, des appartements. Donc c'est là où la plateforme intervient pour aider ces commerçants-là à écouler leur stock, par exemple, leur fin de série. également. Et donc, ils publient à travers leurs offres directement sur le site. Mmh. Et maintenant, alors, bientôt, l'application mobile.
Oui, ça, on va en parler tout à l'heure. Mais, moi, particulier, par exemple, je vais sur votre plateforme, je repère quelque chose qui m'intéresse, je m'adresse à celui qui la vend ou à vous.
En fait, c'est vraiment EcoSlowesting qui met en relation les deux. Ce qui fait que vous, si vous êtes utilisateur, vous devez créer un compte client. Mm-hmm. Vous choisissez l'offre que vous voulez sauver. Et ensuite, une fois que la commande a été validée, donc que la commande a été réglée sur online, vous allez recevoir un mail de confirmation avec lequel vous pouvez vous rendre au magasin pour pouvoir retirer votre achat.
D'accord. Il n'y a pas d'envoi ?
Non, pas du tout. Justement, moi, on n'est pas Amazon. Donc, non, je vous dis ça parce qu'effectivement, il y a plein de monde qui, partout en France, m'appelait pour me dire il y a un tel article qui m'intéresse, surtout dans tout ce qui était bricolage, etc. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer ? Absolument pas. On espère arriver bientôt chez vous. Pour être local, mais c'est hors de question qu'on voit des colis justement pour éviter, pour préserver au mieux qu'on peut l'environnement et surtout réactiver cette économie circulaire, donc donner du pouvoir aux commerçants qui sont ici.
Donc ça marche dans l'alimentation, vous nous l'avez dit. Il va falloir que la connexion soit rapide parce que ce sont des produits très périssables.
Ah oui, à ce qui concerne l'alimentation, oui, tout à fait. C'est les produits proches de la date de péremption, voire le jour même. Donc forcément, il y a un créneau horaire qui se fait le jour même. Mmh. Après, les invendus, le plus souvent, ils sont frais du jour. Mais il arrive aussi que le commerçant, il nous dise à la fermeture de sa boutique, qu'il nous dise « Maintenant, je sais exactement combien d'invendus j'ai pour faire X box. » Et le lendemain, effectivement, la personne pourra aller chercher sa box.
C'est un peu comme Too Good To Go, non ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, on est tous les deux mouvements anti-gaspillage. Non, on ne se base pas vraiment sur les mêmes principes. Chez EcoSlowesting, on donne aussi aux clients, aux consommateurs, la possibilité de choisir à travers donc, des produits uniques, des box surprises quand il n'y a pas le choix et la box détaillée. Donc, en cas, par exemple, des gens qui ont des intolérances, des allergies, ils savent exactement ce qu'il y a dans la box détaillée, ils savent exactement ce qu'il y a dedans.
Vous avez des restaurants monégasques qui sont dirigés vers votre plateforme ?
Oui, c'est vrai que les commerçants de Monaco sont très sensibles à cette démarche. Ils n'ont pas de difficulté du tout à adhérer. Oui, je travaille avec des restaurants. Par exemple, je ne sais pas si je peux nommer, bon, peut-être pas, mais bon, des sushis. Oui. C'est, voilà. Après, des pâtes fraîches, des boulangeries, traiteurs. Bientôt, donc le mois prochain, c'est justement parce qu'on attendait l'application mobile. Il y aura un très grand supermarché qui va rentrer chez EcoSlowesting et aussi un grand traiteur monégasque.
Donc des enseignes de grande distribution qui pour l'instant ne sont pas là.
Alors oui, il y a des enseignes de grande distribution, mais ce sont les petits, par exemple, les petits supermarchés, par exemple le Carrefour Express, le Carrefour City ou le Marché U Express, etc. Mais là, la grande enseigne qu'elle va arriver, effectivement, c'est un hypermarché. On aura compris qui c'est.
Votre nouveauté, c'est de mettre en place une application mobile.
Exact. Voilà, c'était le grand projet de cette année. On y a travaillé beaucoup dessus. C'est grâce au groupe Telis qui m'a aidé à développer tout ça. En particulier Actis. Donc c'est vraiment toute l'équipe qui m'a bien aidé à développer ce grand projet-là, qui va permettre d'ailleurs aux commerçants de vouloir adhérer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement à l'initiative.
Merci Elisa Alberto. On va rappeler l'adresse de votre site.
Oui, c'est ecoslowesting.com et début octobre, il y aura l'application mobile.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour terminer, je voudrais aborder avec vous tous une question d'actualité. Est-ce que vous pensez les uns ou les autres que dans ce contexte bien particulier de coronavirus, vos programmes pourraient être d'une quelconque façon remis en question? Qui est-ce qui veut répondre à cette question?
En ce qui me concerne, non, pas du tout. Bien au contraire, le fait d'avoir une plateforme Internet, les gens peuvent réserver leur panier et le récupérer à une heure préétablie. Ce qui fait qu'il n'y a pas de queue, il n'y a pas de risque. Voilà, donc à moi, en ce qui me concerne, pas du tout.
Patrick Roland.
Alors nous, on considère que c'est une opportunité. Il y a eu, avec le coronavirus et un changement de comportement de consommation. Et dans cette reprise, on croit beaucoup à une reprise verte et on va essayer de tout faire en œuvre pour essayer de maximiser ou de responsabiliser les gens par rapport à leur consommation et notamment alimentaire.
Et vous, Lila Hanson?
Alors pour Mr. Goodfish, c'est sûr que ça a une incidence sur toute la communication qu'on fait sur le programme lors des événements, etc., qui ont été annulés. Par contre, nous avons profité, on va dire, d'une constatation qu'on a fait auprès des personnes, que je pense que les gens, pendant le confinement, ont pris une conscience de l'importance de justement consommer localement. Il y a eu une campagne de communication de Mr. Goodfish sur justement où trouver le poisson pendant le confinement, localement, et il y a aussi une campagne de recettes, comment cuisiner en famille pendant le confinement. On a eu beaucoup de temps en famille.
Eh bien, merci à tous. Voilà, on a passé une heure ensemble sur Radio Éthique pour parler alimentation responsable. Une émission qui n'aurait pas pu avoir lieu sans notre grand Manitou de la technique. C'est Hervé Pichat qui a installé toute notre infrastructure éphémère, Place d'Armes à Monaco. Merci Hervé. Et aussi grâce à Evelyne Tonelli, l'âme de Radio Éthique, qui a préparé l'émission avec moi. Elle a été à la peine. Il est normal qu'elle soit aussi à l'honneur. Là, je vous passe la parole, Patrick Roland.
Oui, alors, on voulait profiter de cette occasion parce qu'en novembre dernier a eu lieu la première édition à Monaco de la Semaine européenne de réduction des déchets, qui a eu un succès assez considérable puisqu'on a fédéré 60 participants pour 48 actions. Et parmi ces actions, il y avait Radio Éthique. Donc on a décidé déjà de remettre à chacun des participants un diplôme pour leur participation. Et on va initier cette remise par Radio Éthique.
Voilà. Merci Patrick Roland. Bravo Evelyne. Merci à tous et à la prochaine fois sur Radio Éthique.
Soyons positifs.